Je peux expliquer le logiciel libre en trois mots. Liberté, égalité, fraternité.
Liberté.
Les logiciels respectent la liberté de leurs utilisateurs.
Égalité.
Personne n'a du pouvoir sur personne.
Fraternité.
Nous encourageons la coopération entre les utilisateurs. Avec un programme où les utilisateurs ont le contrôle du programme, où le programme a le contrôle des utilisateurs.
La seule incitation à innover, c'est qu'on vous copie.
Oui, bien sûr, si je change et que je monte la bonne piste, on m'entendra tout de suite mieux. Donc, j'avais allumé le studio et pas la régie. Et c'est Terrioc qui parle et qui fait un lancement d'émission un peu hasardeux.
Non, pas du tout.
Bonsoir.
Alors, nous avons Ageo à la table et Thiers. Bonjour.
Bonsoir, tout était prévu.
Oui. Du coup, juste pour qu'on s'installe, parce qu'on vient à peine d'arriver... On va passer un petit morceau et ça nous laissera le temps de tout déballer.
Alors je voudrais déballer quelque chose.
We'll be right back.
voilà, enfin bien installé. Et pendant que mes amis essayent de régler leur casque, aujourd'hui, Thiers, il désirait parler de cette belle ambiance d'arrivée au studio.
Ah oui, oh bah, j'ai l'impression, je ne sais pas si vous m'entendez quand je parle tout bas à la radio, mais j'ai l'impression de faire d'une radio clandestine.
Une radio pirate ?
Peut-être, je ne sais pas. Il y a un côté un peu bizarre, il fait super calme. On n'est que nous trois dans le studio. Et en fait, on ne sait même plus comment on fait de la radio. Moi, j'ai oublié, je ne sais même plus de quoi il faut parler. Ah oui, c'est vrai, c'est source.
Et donc peut-être un peu de logiciel libre, de liberté. Non ?
Ah, je bug, je ne sais plus ce que veut dire le mot.
Liberté ?
C'est pas délivré, libéré ?
Non.
Je tremble rien qu'à l'idée d'être en contact avec ce mot, c'est bizarre, de liberté. Logiciel libre, ouais, j'ai envie de faire d'emmerder la Géo. Tu voulais parler de Mobilisons ?
Oui, mais comme ça, tu sautes du coq à l'âne.
Bah écoute,
je vois pas. Du coup, est-ce qu'on peut rappeler qu'est-ce que Mobilisons ?
Donc Mobilisons, c'est... tu me prends un chaud. C'est un logiciel qui a pour... Enfin, un peu comme un réseau social, mais sauf qu'il sera orienté vers des événements, des assos. Donc ça va être une plateforme. Enfin, c'est une plateforme, ça vient d'être sorti en version stable.
Stable.
La semaine passée. Il n'y a pas encore toutes les fonctionnalités, mais c'est stable.
Et Mobilisons, ça s'écrit M-O-B-I-L-Z.
I-Z-O-N. Il manque un I.
Ah, bah.
Le principe, c'est. C'est un peu comme, pour dire des gros mots, comme un meet-up.
Meet-up.
Tu connais pas ? C'est un truc qui permet de dire, ben voilà, je vais faire tel événement, vous pouvez venir, etc. Ça peut être un café politique, ça peut être ce que tu veux.
Ah oui, si, ouais, je me souviens, j'avais vu.
Voilà, et donc la grosse différence déjà, enfin, il y en a deux, c'est que c'est libre. Voilà, donc c'est pas un truc détenu par une entreprise. Et l'autre, c'est que c'est décentralisé. C'est-à-dire qu'un peu comme tous les trucs comme Mastodon, etc., eh ben, chacun peut installer son propre serveur Mobilisons et il va se parler avec les autres serveurs. Donc toi, tu pourras t'inscrire à un événement qui sera hébergé, on va dire, qui sera organisé depuis le serveur de Toto. Tout ça, ça a été crowdfundé par Framasoft à la base, il y a 2 ans, je pense.
Et c'est aussi sur ActivityPub, alors du coup.
Ouais, c'est le protocole ActivityPub. Ouais.
Comme Mastodon, Funkwell, PixelFed.
Par exemple.
Ouais, exactement.
Waouh.
Et donc, ouais, c'est quand même une grosse étape de franchie. Après, il y a encore tous les autres paliers qu'ils avaient promis de faire et qu'ils doivent faire. Et en termes de graphisme, il y a encore à faire, etc. Ça, c'est clair. Mais au moins, c'est une étape de fait, quoi.
C'est une version fonctionnelle.
Ouais, c'est ça.
Et donc, du coup, ce n'est pas parce que tu héberges une instance Mobilisons que tu dois héberger que des événements de ton organisation ou de ton truc.
Alors, dans les détails, je ne connais pas assez.
C'est comme pour PixelFed, tu peux avoir plusieurs comptes et c'est les comptes qui sont dessus qui organisent des événements.
C'est ça, ouais.
Ah, oui, okay.
Et alors, dans chaque compte, il y a encore une petite subtilité, c'est que tu peux avoir plusieurs profits. Et tu peux dire, par exemple, moi, je suis tierce. Et je suis un militant, etc. Et je fais plein de trucs. Et puis, tu as aussi Thierry.
Ah oui.
Mais c'est le même compte pour toi. Toi, c'est le même compte. Mais sauf que c'est des profils différents.
Ah, des alias.
C'est des alias. Et tu peux t'appeler Alberto aussi, qui organise des événements.
Ah oui, dans le sens où tu te logues une seule fois. Tu n'as qu'un compte, mais tu peux gérer différentes identités dans ton propre compte. Ok. Wow.
Ouais, ils ont poussé assez loin. Le concept est intéressant, il faut voir si c'est utile, mais bon, ça a l'air pas mal.
Oui, c'est utile, j'imagine, parce qu'il faudra, enfin j'espère qu'un jour on pourra réorganiser des événements dans lesquels on pourra de nouveau revoir des gens et pas faire que des trucs en ligne.
Ça aussi, ils ont sorti la version stable un jour avant que Macron décrète le confinement.
Il paraît que maintenant il faut dire ma proute.
Oui, ça aussi j'ai vu le
frère. C'est ma pas poule.
Ma quoi?
Ma poule.
Tiens. Mais non, mais tu n'as pas suivi.
Non, t'as pas suivi. Non, t'as pas suivi.
Prout.
Attends, on lui parle plus, c'est bon.
Bah, tu veux animer une émission de radio et t'as pas suivi Prout.
Bon, du coup, expliquez-nous.
Ah, vas-y, Thierry, t'as l'air d'être bien au courant.
Non, je suis pas vraiment bien au courant parce que j'avoue que au plus je suis confiné, au moins je suis connecté avec plein de réseaux. Donc, je sais pas, c'est peut-être un effet parallèle. Mais j'ai vu que la pauvre RTBF s'est retrouvée avec le mot Prout en dessous de tous ses articles. Juste parce qu'il y avait eu une release un peu trop hâtive de la part des devs d'une nouvelle version de la plateforme en ligne de la RTBF. Et donc pendant une heure, comme ça, il y avait en bas de tous les articles, Prout.
Ah, d'accord, toi tu parlais de ça, mais en fait, aujourd'hui ou hier, il y a Framasoft qui a lancé Framaprout, et je ne sais pas trop ce que c'est.
Ah ben c'est à cause de
ça. C'est
à cause de ça.
C'est à cause de ça. J'avais pas capté que c'était lié.
Si, si, c'est lié au fait que... c'est ça que j'adore, moi, avec les plateformes en ligne, c'est que parfois tu vois apparaître des trucs juste géniaux. Prout en bas de tous les articles, ça peut très bien donner, je trouve, à la fin d'une phrase où, je sais pas moi, on te parle encore une fois de, je sais pas, par exemple, l'élection d'un certain pays qui a lieu pour le moment et où ça finit par Prout.
Par exemple.
Donc, ben voilà, ben donc, du coup, Framasoft a encore profité de l'occasion pour sortir un énième truc. J'avais pas dit qu'ils arrêtaient des services.
Oui, mais c'est...
Enfin, voilà. C'est un truc pour rigoler, mais du coup, c'est la fête au même et la fête au Prout, quoi. Voilà. Je suis Prout.
Et juste pour finir et terminer avec Mobilisons, j'avais cru comprendre à Joe que tu t'es baladé au moins une petite heure dessus.
Ah non, un petit quart d'heure plutôt, j'ai pas eu beaucoup de temps. Non, ouais.
Et de qu'est-ce que t'as vu, qu'est-ce que tu peux en dire, en décrire?
C'est vraiment les trucs basiques pour créer un événement et gérer. En fait, t'as deux visions, enfin t'as deux aspects. Soit tu es un collectif qui organise des événements. Et donc là, tu peux gérer ton équipe, etc., et créer des événements. Soit tu es un utilisateur et tu peux rejoindre un événement, ou bien attendre de te faire inviter. Tu peux pas rejoindre une organisation ou un collectif. Tu peux pas rejoindre un collectif comme ça. Tu dois être invité. Et je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais je crois qu'ils voulaient attendre que les gens commencent à utiliser la plateforme avant d'avoir des sortes de droits, un peu comme dans Discourse, si tu vois. Mais je suis pas trop sûr. Comme je suis resté qu'un quart d'heure, j'ai pas eu assez de temps.
Sur une version de démo qu'il y a sur le site de
Mobilisons? Non, c'est sur c'est le truc officiel, Mobilisons.
Le truc.
Le Mobilisons, tu vois.
Le Mobilisons.
Celui de Framasoft.
L'instance originelle.
C'est ça.
La première.
Ah oui, et aussi, le truc très important, c'est que il y a quelqu'un, je sais plus son nom, qui a lancé mobilisons.be, et donc c'est une instance belge qui tourne et tout, et donc il y a déjà une instance pour les Belges, quoi.
Voilà. Ah ben voilà, mesdames et messieurs, chers auditeurs, chères auditrices, il ne vous reste plus qu'à aller explorer mobilisons.be, une solution logicielle libre et technique qui vous aidera à vous mobiliser. Mobiliser pourquoi? Peut-être pour défendre votre liberté, car au cas où vous n'auriez pas remarqué, ben, ça pue.
J'aime beaucoup.
Et c'est pas à cause des proutes.
Le slogan de commencement de mobilisons.be, c'est frites, mitraillettes, ensemble. Et aussi sa version néerlandaise.
Oh, bedankt. Ik spreek niet Nederlands, maar bedankt.
Et je vois qu'il y a déjà quelques événements qui sont
rédigés. Ah oui, non, ça a l'air de tourner. Hein.
Cool.
Donc voilà.
Well, donc encore un outil à aller explorer.
Donc quand on aura le droit de sortir, ben on pourra organiser, enfin il y aura déjà tout ce que tu vois, c'est comme si jamais tu veux sortir, et ben t'as déjà les événements pour.
Oui, c'est ça. La prochaine date, c'est quoi, 2023?
Je vois du le novembre confinement. Et du décembre.
De cette année?
Oui.
Oh mais là, ils osent les gens quand même. Hein.
Voilà.
Ou alors c'est un événement en ligne avec des logiciels en ligne.
Je n'ai pas encore pris le temps de cliquer sur les différents
événements. Non, mais j'ai... Voilà.
Mais on peut parler de quelque chose qui ne s'est pas passé en ligne et qui a eu lieu il y a 15 jours maintenant.
Attends. C'est une énigme. Combien de mots?
Un truc qui a été renommé en cours de route parce que...
Ah, qui ne s'est pas passé en ligne, donc qui s'est passé en physique.
C'est ça.
Voilà. Un truc, oui.
Un truc physique.
En 4 lettres.
En 4 lettres.
Un peu plus.
FFDN. Oh là là, la FFDN.
Nous revenons de la rencontre FFDN Vous aurez aussi le plaisir, dans les minutes, heures ou peut-être émissions suivantes, écouter des petites capsules que Frédéric a pris sur place.
Ouais, ça serait bien ça. L'idée, c'est qu'on essaye de...
Attends, juste avant, on précise que c'est Alive qui a fait l'instance mobilisée en Belgique. Voilà.
Ça... Alive.
Ouais, A-L-Y-V-E. Voilà.
Ah, c'est quelqu'un ou c'est quelque chose?
C'est une...
Quoi, une personne.
C'est une personne, oui.
Ah oui, Alive.
C'est quelqu'un.
Merci Alive.
C'est son pseudo, quoi.
Merci Alive. Oui, donc voilà, cette année, donc, comme chaque année, la Fédération FDN des fournisseurs d'accès Internet associatif européen, puisque maintenant il y a des Suisses, en plus de nous autres Neutrinet belges, et de toute une petite ribambelle d'associations françaises, on devait, Neutrinet, on s'était proposé pour organiser l'Assemblée Générale cette année. Ça s'est transformé à la fin en rencontre, parce que vu le contexte sanitaire... Tout devenait fort compliqué, il fallait faire des choses en ligne, il fallait faire des choses en présentiel, ou bien non, il ne fallait pas faire en présentiel parce que c'est dangereux, vous allez contaminer toute la planète et tout ça, on va devenir un cluster de contamination, enfin bref, longue discussion par-ci, par-là, pour savoir si oui ou non on allait se rencontrer physiquement. Ben, on a quand même pris la décision au final de se dire ben, ça ne sera pas une assemblée générale, comme ça la dimension formelle, on la fout à la poubelle temporairement jusqu'au prochain. Bonne chance à eux ou à elles. mais on va conserver la rencontre physique en présentiel, parce qu'on s'est dit que quand même, nous on passe notre temps connectés sur les internets, mais il y a quand même de temps en temps une espèce de besoin humain de se revoir, de se...
Mettre des pseudos sur des têtes.
Voilà, peut-être...
Des têtes sur des pseudos.
De se faire un bisou, de se toucher la main.
Ouais, là, tu vas loin, mais...
Ouais, ils ont une sorte de contact comme ça, interpersonnel, un peu plus chaleureux.
Au final...
Note que nous n'avons pas eu le problème de une bise, deux bises ou trois bises.
Ça, c'est vrai que ça ne s'est pas du tout posé, parce qu'on n'a pas fait beaucoup de bisous.
Au niveau des bisous, il y a eu des câlins, mais il n'y a pas eu des bisous, je crois.
Ouais, il y a eu des câlins, mais il n'y a pas eu des bisous.
Bref.
Enfin, on ne va pas rentrer dans l'intimité de la rencontre. Mais du coup, voilà, donc c'était chouette. On était une vingtaine. Et je dois dire que la quantité de blabla et de blabla et encore de blabla qui a eu lieu autour de la rencontre pendant depuis les premières heures jusqu'aux derniers qui sont partis, il y avait un vrai besoin de passer du temps ensemble et de blablater sur plein de choses que sont les internets. Et donc ça, c'est chouette. Et notre ami Frédux a normalement pris quelques capsules de l'un ou l'autre des membres de la FEDE. Et peut-être que dans les émissions qui suivront, on retransmettra une capsule et on essaiera d'inviter l'une ou l'autre de ces personnes qui auraient été interviewées, histoire de parler un peu des internets associatifs. Parce que c'est bien les internets associatifs.
Et aussi donner mon ressenti de cette rencontre. Je trouvais que c'était, enfin, la rencontre, enfin les 4 jours étaient juste super, vraiment super convivial, etc. Et même si moi j'ai pas pu participer comme j'étais dans les organisateurs, j'ai quand même, il y avait vraiment, c'était chouette de pouvoir mettre des pseudos sur des têtes ou des têtes sur des pseudos, etc. Et je me disais, ouais, toutes ces peurs et ces craintes d'organiser un truc en physique. Et au final, ben, on était 20 dans un gigantesque truc, dans un... Enfin,
oui,
je veux pas minimiser pour ceux qui ont peur, ils ont les peurs légitimes et tout, mais je veux dire, voilà, c'est comme ça, c'est la situation qui est anxiogène. Mais c'était vraiment... L'organisation était... Enfin, la préparation était tellement épuisante, et pourtant, le jour même, c'était tellement...
Fluide,
ouais, tout se passait comme sur des roulettes et tout, il n'y avait aucun problème, aucun conflit, voilà.
Et on peut confirmer, on a juste eu une personne qui connaissait, une personne de contact, mais au final, personne n'avait...
Mais le lendemain, elle s'est fait tester, elle nous a prévenu, on a prévenu tout le monde que finalement elle était négative, donc voilà.
Ah oui, c'est ça, on a suggéré, mais on a... On n'est pas tous morts.
Quand la légalité nous le permet, parce que par exemple maintenant, actuellement, refaire ce genre d'événement serait juste complètement proscrit vu que nous sommes censés être tous en confinement.
Ouais.
Mais quand la passivité le fait, et je pense que c'est important, c'est de garder des moments formels, avec toutes les règles de précaution.
Formels ou informels ?
Pardon, informels, mais présentiels.
Ah oui, des moments présentiels. Oui, oui, oui. Il faut ça fait partie de la liberté, je ne sais pas, la liberté de se rencontrer. Pas pour le moment. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'ai l'impression qu'on est ici illégitimement dans un studio de radio.
On n'est pas dans un studio, non.
Ah non, c'est vrai, on est en télé, je sais pas.
Télé-studio.
Télé-boutique.
Et du coup, pour enchaîner avec la liberté et du coup l'amènement de la non-liberté, il me semble qu'en Allemagne, il y a une belle petite chose qui est en devenir.
Oh, tu t'as pas un petit morceau de musique pour changer d'air et puis après on parlera des joyeusetés à l'allemande qui se préparent.
Mais non, on peut affaiblir le moral.
Et puis rebooster avec un petit musique qui voilà, fait rire. Oui. Ah bon, d'accord. Bon, je sais pas trop quoi dire, mais...
C'est pas suivi pour l'Allemagne, donc...
Il y a visiblement une proposition de loi qui est en cours en Allemagne pour autoriser les 19 organisations capables de... gérer, on va dire, les aspects du renseignement en Allemagne. Ça fait quand même beaucoup d'organisations qui sont capables de faire ça en Allemagne, mais soit...
T'as la Stasi, t'as...
Non. De mettre en place des outils intrusifs sur les télécommunications, donc une boîte... Enfin, voilà, des chevaux de Troie sur les différents fournisseurs d'accès à Internet associatif pour pouvoir avoir plus facilement accès... à tous les flux de communication. Et en parallèle de ça, il y a aussi un énième travail de SAP sur le chiffrement. Parce que voilà, le chiffrement, petit à petit, c'est une volonté européenne, c'est aussi un peu défendu par Macron depuis le début de son mandat. Le chiffrement, ça a des limites. Hein. Ça a des limites. Et donc voilà, la question que je me posais, c'est est-ce qu'en Belgique, on a les moyens de suivre un peu que fait la législation par rapport à ce genre de... Enfin, quels sont les projets de loi qu'il y a dans les tiroirs concernant un peu plus de largesse de la part des organisations du renseignement et de la surveillance des télécommunications.
Bah, surtout qu'on a un nouveau gouvernement, donc c'est vrai qu'il serait intéressant de voir...
Attends, on a un gouvernement ?
Les vacances, ça te fait du bien. Hein. Toi, tu décompresses. Bonjour. Oui, on a un gouvernement.
Donc c'est vrai que ce serait intéressant de surveiller et d'analyser un peu qu'est-ce qu'ils ont prévu sur la partie digital.
Ouais, digital. Le digital. Et on regardait il n'y a pas longtemps, on a vu que la NURPA en Belgique, c'était un peu mort.
En tout cas, ils n'ont pas eu d'activité en 2020.
Non, et je sais qu'il n'y avait pas grand monde qui portait un peu ce projet.
C'est quand les bonnes nouvelles encore ? Je ne sais plus.
C'est le morceau de musique qui viendra après, qui remontera la morale, tout ça. Et puis la bonne nouvelle, c'est la sortie de Mobilisons, parce que je ne sais pas, peut-être il y a comme un message subliminal, Mobilisons. Mobilisons pourquoi ? Aujourd'hui, c'est faire un barbecue, c'est une forme de mobilisation.
Ah, j'allais dire la révolution, mais...
La révolution, là, je crois que ça va être difficile. Mais,
C'est quand encore le jour où on fait péter le Parlement ?
C'était hier, on a oublié.
Ah ouais, c'est vrai, hier c'était le Guy Fawkes Day.
Ouais. On a encore oublié, mais c'est pas grave.
On a encore oublié cette année, mais c'est pas grave, on y fera l'année prochaine.
Ouais, ça nous fait un an pour préparer.
Tout à fait.
On va avoir des problèmes.
Vous avez pas le même problème l'année passée ?
Bah si, comme chaque année.
Ah, tu voulais pas mettre un morceau, toi ?
Tout à fait. Je propose qu'on se détende un peu. On essaye de trouver d'autres sujets pour la suite.
Ouais, mais pas une musique qui déprime, hein, parce que sinon on va vraiment flinguer.
But every little now and then. another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down and embrace the love we found. For you and I were safe and sound.
Se termine dans la douleur. Bonjour. Si le monde tourne encore au pétrole, 4 milliards de tonnes consommées en 2017, la fée électricité déploie ses ailes. Elle est passée de 0,8 milliards de tonnes équivalent pétrole en 1990 à 1,8 en 2017. Voiture, vélo, bus, montre, brosse à dents, plus rien n'échappe aux électrons. On se chauffait au fioul et on roulait à l'essence. La transition énergétique est là pour nous sauver. L'énergie va devenir propre, durable et zéro émission. Zéro émission ? Vraiment ? Tout dépend de ce qui se cache derrière l'interrupteur. Or, en 2017, 38% de la production mondiale d'électricité provenait encore du charbon, 23% du gaz naturel, des émissions de CO2 plein les prises. Mais en France, nous avons de la chance. 72% de notre électricité est fournie par nos centrales nucléaires peu émettrices. Une chance qui vient avec son lot de dangers atomiques, d'utilisation massive de nos cours d'eau et de déchets dangereux et difficilement recyclables. Mais bénis soient les énergies renouvelables. Les rivières, le vent, le soleil pourraient enfin subvenir à nos appétits énergivores. Sauf que, pour produire ces volts verts, on ne peut se passer de métaux rares qui se font de plus en plus rares. Pour les extirper, il faut décaper le sol, broyer les roches et séparer les éléments à l'aide d'acides qui s'infiltrent jusqu'au cours d'eau et polluent les nappes phréatiques. Et à cela s'ajoute la radioactivité du raffinage. Près des mines de métaux rares naissent alors ce qu'on nomme des villages de cancer, puisqu'on vous dit que c'est du propre. Et c'est là toute l'histoire des électrons. L'électricité est un vecteur. Elle permet de séparer la production d'énergie de sa consommation. Et c'est pratique, parce qu'elle invisibilise des pollutions générées en amont, elle encourage la consommation en aval. Si on vous proposait une brosse à dents à pétrole, vous y réfléchiriez à deux fois. Tandis qu'une brosse à dents électrique, ça semble inoffensif, simple comme un coup d'interrupteur. Et une fois que l'électricité est là, il faut la vendre, quitte à créer des besoins qui dépasseront vite nos capacités. Remontons en arrière, 1973, la France fait le choix du nucléaire. En quelques années, 19 centrales sortent de terre. Mais comment va-t-on utiliser tous ces nouveaux kilowatts? Surtout que l'électricité se stocke mal. Heureusement, EDF est là pour vanter les mérites du chauffage électrique. Alors que seuls 10% des habitations en sont équipées dans les années 1970, 45% le seront la décennie suivante. Or, le radiateur grille-pain a beau être électrique, il reste l'une des pires manières de se chauffer. En hiver, ces engins génèrent des pics de consommation qui peuvent aller jusqu'à 5 gigawatts, soit l'équivalent de 5 réacteurs nucléaires. Résultat, aujourd'hui, pour éviter les coupures, nous sommes contraints d'importer de l'électricité de nos voisins. Et peu importe si elle provient de centrales qui brûlent charbon, lignite et autres fuels, pas très transition énergétique. Mais rassurez-vous, l'efficacité énergétique va nous sauver. Aux États-Unis, entre 1993 et 2005, le climatiseur moyen des particuliers consommait 28% moins d'électricité. Ouf! des appareils consommant moins pour produire plus. La magie est de retour. Sauf que, dans le même temps, l'énergie consommée pour cet usage augmentait de 37%. Dites bonjour au paradoxe de Jevons. Plus son rendement énergétique est bon, moins un produit coûte cher à faire tourner et plus on est tenté de consommer. Aujourd'hui, il y aurait 1 milliard de climatiseurs dans le monde, 1 pour 7 individus. En 2050, il devrait y en avoir 4,5 milliards, ce qui les rendrait aussi courants que les téléphones portables. Et avec le changement climatique, ça ne risque pas de s'arranger. Car renoncer à ces suppléments de confort est vite douloureux. Comment supporter la perte de productivité lors des canicules une fois que l'on a connu les 18 degrés à toute saison? Nous voilà addicts aux ampères. Pourtant, nos réseaux ne sont pas infaillibles. Le 31 juillet 2012, en Inde, la production énergétique se montre insuffisante. 600 millions d'Indiens sont alors privés de courant. En septembre 2019, pour éviter des risques d'incendie, le principal fournisseur d'électricité de l'État de Californie coupe l'électricité à 700 000 clients. Et en Europe, l'interconnexion de nos grilles accroît l'échelle des coupures. En 2003, la chute de deux arbres sur une ligne en Suisse a provoqué un blackout géant en Italie. Préparez vos bougies. CO2, terres rares, dépendance des coupures, la fée électrique frôle le court-circuit. Hélas, il n'y a pas d'énergie magique. Il ne suffit pas simplement de passer d'une voiture thermique à une voiture électrique. Il ne s'agit pas de remplacer nos prothèses énergétiques, mais bien de questionner ce qui est vraiment indispensable et urgent.
Mathilde Chouba, première. Je m'appelle Mathilde Chouba et je suis maître de conférence en sciences politiques à Sciences Po Lille. Quand on parle de l'électricité aujourd'hui comme outil de la transition énergétique, on a tendance à regarder l'électricité comme une chose neutre, sans émissions, sans conséquences, sans provenance et même sans conséquences, puisqu'on regarde le moment où on l'utilise et en tant qu'utilisateur, en fait, on la voit jamais, on voit les services qu'elle produit. Le fait qu'elle ait été produite avec des énergies renouvelables qui reposent sur des terres rares qui ont été potentiellement extraites dans des conditions abominables, ou qu'elle repose sur de l'hydrogène qui a besoin, dans beaucoup de cas actuellement, d'énergie fossile. Finalement, tout ça, c'est occulté parce qu'on regarde uniquement l'énergie électrique qui a l'air propre et immatérielle. Mais c'est quand même de la fiction. Et malheureusement, beaucoup de discours actuellement autour de la transition énergétique qui promeuvent l'électricité comme une énergie purement verte et purement immatérielle entretiennent cette fiction. C'est extrêmement problématique pour tout ce qui consisterait à se poser la question de la quantité d'énergie qu'on consomme et du fait que c'est peut-être pas soutenable et qu'on va pas vers le mieux en continuant les tendances actuelles de la société. Et le drame, depuis les 30 Glorieuses jusqu'à aujourd'hui, c'est que les services qu'on estime être des services normaux sont des services qui consomment de plus en plus d'énergie. Avoir une mobilité modérée, restreinte au département ou à la région, ou exceptionnellement pour les vacances, on pouvait aller dans d'autres régions de France, là où ça était, c'était normal dans les années 60, ça n'est plus du tout aujourd'hui. Donc en fait, ce sont nos niveaux d'exigence et ce que la société considère comme normal qui a augmenté depuis ces dernières décennies, jusqu'au point d'arriver aujourd'hui à un niveau où ces seuils de normalité requièrent de notre part une consommation d'énergie qu'on n'est plus capable d'assurer sans détruire la planète. L'indicateur le plus prédictif de la consommation d'énergie d'une personne en France aujourd'hui, c'est son niveau de revenu. C'est-à-dire, plus on est riche, plus on consomme. Et ça, une enquête du Crédoc qui est parue en 2019 l'a très très bien montré. Cette enquête avait un titre absolument explicite. Transition écologique, l'engagement de façade des classes supérieures. Donc mettre les pauvres comme bouclier pour ne surtout pas faire la transition énergétique, c'est vraiment de l'instrumentalisation. Si on a du mal à imaginer aujourd'hui une transition, des mesures de transition énergétique qui ne soient pas défavorables aux populations les plus démunies, c'est aussi parce qu'on a du mal à envisager autre chose qu'une taxe sur le carbone. Et une taxe sur le carbone, ça fait augmenter le prix. Et si ça fait augmenter le prix, c'est plus lourd pour les personnes qui ont des faibles revenus. C'est une raison de plus de réfléchir sérieusement à d'autres perspectives de politique énergétique, notamment des politiques de quotas. Les politiques de quotas, cette fois-ci, ça ne repose pas sur une augmentation du prix, mais ça repose sur une limitation de la quantité d'émissions en valeur absolue que chacun émet. La politique était envisagée en Grande-Bretagne sous Tony Blair dans les années 2000, la carte carbone. L'idée, c'était de donner à chacun sa portion de droits d'émission de gaz à effet de serre et à chaque personne de décider ce qu'elle préfère en faire. Donc si on préfère avoir une maison bien chauffée et prendre moins l'avion, c'est un choix personnel et peu importe, la société n'a rien à dire là-dessus du moment qu'on respecte son quota. Et c'est très différent de ce qui consisterait à déterminer un mode de vie souhaitable qui serait forcément standardisé. L'idée c'était de commencer avec la moyenne de l'année précédente, donc si on instaure un système de carte carbone à l'année N, on se réfère à N-1, on prend à peu près la même moyenne pour les émissions de gaz à effet de serre de l'année, et d'année en année, jusque l'horizon 2050, et après, on réduit progressivement. Ça fait à peu près 1,15 tonnes par personne d'émissions par personne et par an. Déjà, prendre l'avion, ce serait plus possible. Quand on prend l'avion une fois, on grille complètement le quota de ce qui serait soutenable pour un an. Donc l'avion, ça serait peut-être quelque chose des billets d'avion intercontinentaux, c'est peut-être quelque chose qu'on distribuerait à la loterie dans un monde soutenable. On en aurait quelques-uns par an et ça serait comme un concours ou un tirage au sort. Plus on commence tôt aussi et moins ça sera radical. C'est-à-dire plus on fait d'efforts en commençant tout de suite, en commençant demain, et moins on devra tomber de très haut quand on voudra vraiment s'y mettre le temps venu. La principale objection, c'est qu'un système de quotas, ça entérinerait l'idée que même dans ce qui nous semble anodin, quotidien, banal, banalisé grâce à l'invisibilité de l'énergie, que même dans les comportements quotidiens, il y aurait des limitations physiques qui seraient imposées au nom du climat. Parce qu'il y a encore ce fantasme, quelque part, que finalement, c'est peut-être parce qu'on n'a pas fait assez de recherches, qu'on n'a pas assez expérimenté, que le moteur à eau, il est juste devant nous, il suffit encore d'étudier un petit peu et puis on le trouvera. Se résoudre à instaurer un système de quotas, c'est quelque part faire le deuil de la solution magique qu'on espère trouver et qui nous permettrait de ne pas faire d'efforts. Une autre raison, c'est que les gagnants d'un système de quotas, ce n'est pas ceux qui prennent les décisions actuellement. Les gagnants d'un système de quotas, c'est les gens qui consomment beaucoup moins que les autres en France et dans le monde. Et les gagnants d'un système de quotas, ce ne sont pas les classes dirigeantes. Et les personnes qui prennent les décisions, ce n'est pas vraiment les plus pauvres aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plus de gains écologiques et climatiques à trouver dans le fait de ne pas faire certaines choses. Donc en fait, plutôt que de créer des instances supplémentaires dédiées au climat, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait s'abstenir de faire, donc c'est plutôt du côté du veto ou de la retenue que peuvent se faire les principaux gains. Donc avoir une convention nationale sur le climat, mais continuer à subventionner les énergies fossiles de l'autre main, c'est complètement schizophrène. Et c'est dans la schizophrénie que s'entretient aussi cette idée que, ah oui, certes, le changement climatique, c'est quelque chose de sérieux, mais ça ne l'est pas au point qu'on fasse vraiment des efforts. Et ça, ça entretient cette idée qu'on peut essayer d'avoir les deux choses en même temps, le mode de vie écolo, mais aussi l'avion, qu'on peut avoir le budget climatique participatif dans la ville, mais aussi des grosses subventions pour aider à passer le permis. C'est peut-être un peu choquant, mais je pense que même en matière militaire, en matière de défense, en matière de justice, en matière de tout ce qu'on veut, on a des efforts à faire en matière climatique et c'est pas juste le ministre de l'Environnement ou le conseiller développement durable de la mairie qui doit se charger lui tout seul en faisant des politiques additionnelles pour l'environnement de verdir tout le reste. Conditionner toutes les décisions que l'on prend à l'aune du changement climatique, c'est déjà ce qu'on aurait dû faire depuis longtemps.
Yep. Bonjour chez vous.
Et du coup, pour faire une petite transition à tout ce qu'on vient d'entendre, on est fort dans les numériques, dans les choses qu'on ne voit pas mais qui consomment très loin, pas à côté de nous. Comment on introduit justement le numérique dans cette consommation globale de la planète?
Ah, avec what the fuck. What, W-A-T-T.
Et Fredux a rejoint la table.
Voilà. Oui, pardon.
Bonjour, excuse-moi. Bonjour.
Quelle entrée en matière.
Personne n'a compris ce qu'il raconte. Mais...
En transition, what the fuck.
What the fuck. Ouais, voilà, donc le petit investissement à faire, c'est juste de s'offrir pour les 10-15 euros, quelque chose comme ça, un wattmètre. Petit dispositif électrique qui permet de visualiser clairement sur un petit écran la consommation électrique de chaque outil électrique qu'on a à la maison et dont on se sert au quotidien.
Mais comment tu mets un wattmètre sur le serveur de Google?
Alors, ça... C'est pas moi qui vais pouvoir le faire, parce que ça, c'est trop gros, hein, ça nous dépasse. Hein, comme j'ai entendu le dire, voilà, c'est, quand on est riche, on s'en fout, on consomme. Mais nous à la maison, quoi, c'est juste déjà se rendre compte que... Ah ben, tiens, wattmètre, la prochaine fois, je le fais. Tiens, je vais faire une recherche avec Google et une recherche avec Quant. Je vais voir si la page de Google est plus consommatrice que ça. Google, on s'en fout. Google va mourir, de toute façon. C'est trop gros. Hein? Too big, too full. Non.
Laissez-moi pisser de rire.
Mais pas,
avec le Mannequin Peace ou sans le Mannequin Peace?
S'il te plaît, tu peux sortir.
Ne fais pas sur la table.
Ah. Non, mais c'est le... Voilà, c'est le un petit moteur de recherche... Il y en a qui sont plus simples à utiliser. Non, what the fuck, c'est la consommation électrique personnelle qu'on peut juguler. Et ça, avec ce genre de petit appareil, on peut voir que certains systèmes d'exploitation consomment plus d'électricité que d'autres sur le même objet informatique, qui est donc un ordi.
Il faut juguler de capote la consommation.
Je vois que c'est une bonne vieille Janin Libersky remonte à la surface, là.
Parce que ça aussi, vous savez que depuis la dernière décennie, en fait, on a multiplié par deux la puissance des différents appareils informatiques, mais la consommation n'a pas beaucoup augmenté.
Plus de puissance pour moins d'électricité.
Bref, ouais. Je sais pas, moi, de toute façon, au plus le temps passe, au plus je me dis que je ferai moi, à titre personnel, hein, parce que de toute façon, on est libre d'être de plus en plus techno-primitiviste.
Mais c'est pas la consommation par personne qui n'a pas augmenté, mais de toute façon, la population augmente, donc ça change rien. Enfin, je sais pas. De toute façon, c'est un peu ce genre de statistiques, on va dire. Ça, c'est juste un carton blanc pour consommer plus, quoi, en fait. Bah, on consomme pas plus qu'avant, donc on peut continuer comme avant.
Mmh.
C'est, voilà, mais au final, non. C'est le problème, c'est qu'il faut inverser la tendance, quoi.
Mmh. Ouais, et si on peut avoir
une consommation négative, enfin une croissance négative, etc. Mais...
Je me rappelle, je sais plus quel magazine fonctionnait au panneau solaire, leur site web.
Ça oui, j'ai pas comme oublié. Ça. Il y avait un truc comme ça avec une brique.
Le Sun, The Sun, oh, non.
Merci.
C'est vendredi. Chers amis,
non, c'est vrai. Oui, mais ça, il y a un peu ce côté low tech, hein, l'idée du small tech, du low tech. Ça aussi, ça fait partie des projets un peu numériques. Comment tirer le maximum du plus petit machin, enfin de la plus petite consommation possible. Voilà, c'est un peu ça l'idée du low tech, je pense.
Ouais, et tant pis si c'est un peu plus lent, c'est pas grave.
Ouais, parce que
la lenteur, c'est moins de consommation aussi.
Oui, ça va aussi avec le slow, tout ce qui est slow food, slow talk, slow whatever.
Après, on peut aussi rebondir par rapport à, par exemple, le taux hébergement que Netflix propose avec les briques.
Le slow self-hosting.
C'est aussi une manière de mettre un pied dans le monde numérique en ayant une réflexion sur... On a un petit appareil qui fait plein de trucs mais qui ne consomme pas grand-chose.
Oui, il faut être patient.
Voilà, venez lentement, un prochain troisième dimanche au 46 de l'avenue.
Alors, je ne sais pas combien il y aura de personnes.
Ouais. Venez lentement, comme ça vous ne passez exactement. Pas dans les rues.
On a le droit d'annoncer comme ça publiquement sur les ondes radio le fait d'inviter un rassemblement éventuel de personnes.
Au pire, on invitera des flics, c'est pas le problème. Et eux aussi, ils ont droit à leur rubrique internet.
Eux aussi peuvent te parler de l'auto-hébergement.
C'est ça. Le self-hosted, mais chez eux.
Oui, c'est ça. On a de la place. On va vous auto-héberger.
On peut fournir des attestations, hein, s'ils veulent.
Oui, pas...
Et du coup, on peut rebondir sur un autre sujet, qui est les contribateliers.
Oui. Attends, j'avais encore pour la transition ELEC, c'est que la consommation d'une webcam lors d'audio-vidéoconférence augmente de... je crois que c'était 7 watts. Donc mon wattmètre, je lui mettais un petit salon JT en route, bonne configuration audio-vidéo, et j'étais à jouer dans les 47 watts de consommation de mon ordinateur. Hein. Juste le fait de couper la webcam fait baisser de plus ou moins 7 watts la consommation de cette machine. Après, je ne sais pas combien d'euros ça fait, hein. Je ne sais pas combien les kilowattheures, si on a un compteur bi-horaire et tout ça, mais... Techniquement parlant, une webcam consomme, fait tourner le processeur beaucoup plus que sans webcam. Donc faites coucou au tout début, mais soyez, quand on dit qu'aux vidéoconférences à 14h, soyez là à 14h. C'est quand même pas compliqué de cliquer à 13h59.
Coupez, jetez votre caméra, quoi, ça sert à rien.
Ah ouais, mais alors il y a la moitié de l'écran qui part parfois avec.
Bah, je sais pas, moi j'ai... C'est difficile d'en trouver 100, mais j'en ai 100 sans webcam, quoi.
Voilà.
Il me semble que tu as un coup de gueule sur l'horaire.
Hein, mais oui, parce que si on dit on laisse la webcam les 30 secondes, le temps des coucous présentations, donc de 14h pile à 14h et 30 secondes, voilà, on s'est tous vus, on s'est tous reconnus, on s'est tous fait coucou, on coupe la webcam à 14h et 31 secondes et on fait baisser drastiquement la consommation électrique sur Terre.
Mais n'empêche, les visioconférences, etc. Oui, c'est important de pouvoir voir des gens, etc. De pas rester. Mais en même temps, une conférence, enfin une audioconférence, donc sans personne qui a une webcam d'allumée, ça consomme beaucoup moins pour un serveur, quoi. Quand tu regardes les Mumble qui peuvent accueillir, je sais pas combien de milliers de personnes. Et tu as les Jitsi, dès qu'il y a des webcams, etc., qui commencent à patauger. Après, on va dire une centaine. Le facteur est de 10 au moins, tu vois, je pense.
Et la concentration du cerveau aussi.
C'est pour ça qu'il faut de leur 5G.
Mais non, on parle de puissance d'ordi, pas de réseau. En finesse. Quel troll.
J'ai vendredi.
Il a le droit. Mais du coup, que penses-tu de la 6G?
C'est la suite.
Il n'y a personne qui...
Y a rien... Je ne pense pas, tu sais.
Il n'y a rien à en penser, il faut juste subir.
Ben oui.
Non, on ne peut pas...
C'est un cheminement spirituel. Tu ne t'es pas rendu compte, mais tu as accepté la 1G. tu as intériorisé comme ça l'utilisation de la 1G, de la 2G, de la 3G, de la 4G, de la 5G. Tu vas aussi comme ça accepter et accueillir.
Alors la 1G, on n'est pas prêt à ne plus l'avoir, parce que c'est celle qui permet d'envoyer les SMS et la voix. Si
oh, tu serais étonné.
Mais qui est en concurrence avec la 5G, qui justement essaye de réimplémenter ces moyens de communication.
Et en termes de consommation électrique, ça consomme beaucoup ça, la 5G?
Ah, j'ai pas encore mis mon wattmètre dessus.
Dans tous les cas, ça va consommer plus que... Parce que tu rajoutes une couche à un réseau existant, donc... Dans tous les cas, pendant un certain moment, les deux devront coexister.
Bah, pas spécialement, parce que normalement, les antennes 3G sont converties en 5G.
D'accord. Mais même pour toutes les antennes, parce que là, c'est les 3G, du coup. Tu vois ?
Mais la 3G est en train d'être décommissionnée tout doucement et remplacée par la 5G.
Alors, si une antenne 3G peut être convertie, je pense qu'on peut toutes et tous être convertis.
You will be assimilated.
There is no resistance. Resistance is futile.
Mais
we are Borg.
Mais dans tous les cas, t'as un coût quand même de transition qui est présent. Rien que pour la construction de ces antennes qui consomment des métaux rares, etc., qui exploitent des enfants, enfin peut-être pas des enfants, mais en tout cas des gens en Asie.
J'ai l'impression qu'on regarde le coup du mauvais côté, c'est pas le pire côté.
Mais non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a l'énergie grise qui existe, qui est là.
Mais pour moi, l'énergie grise, elle est de l'autre côté.
Ben non.
Côté client.
Moi, j'ai l'énergie.
Ah oui, aussi, mais les deux. Mais...
L'énergie jaune devant, brun derrière.
Non, tais-toi, dis ça.
C'est vendredi.
Oui, mais bon, il y a des limites au vendredi quand même. Là.
Non, et là, ouais,
c'est que le début, hein. Il nous reste encore 33 minutes de vendredi.
La seule limite au vendredi, c'est le samedi.
Oui.
Il n'y en a pas d'autre.
Si on veut garder le micro jusqu'à 22h et faire chier Wattizip, on peut aussi. Hein.
Ah oui, c'est vrai. De toute façon, ils ne nous écoutent pas. Donc.
Ça va clasher dans les ondes radio.
Et il me semble que tu es en mode clash. Que tu
et alors, t'entends pour revenir, parce qu'il y a quand même de l'actu en plus de notre petite lessive interne.
Fake news.
C'est,
Stop the count. Non.
Regarde un peu, il y a un onglet avec la mère Zaklis. Alors, la mère Zaklis.
Tu veux bien rester poli.
Ça rappelle quelque chose.
Je me souviens vaguement, parce que j'ai lu tout à l'heure, mais vas-y.
Non, c'est une chouette.
C'est
comme chez Mémé, mais en France. Et la mère Zaklis, non, parce qu'ils ont remis en route des nouveaux serveurs chez eux pour tout ce qui est justement vidéoconférence. J'ai entreperçu ça ce matin. Et je n'ai point mes notes analogiques, ce n'est que du numérique.
Donc tu veux dire par là que la mère Zaklis, elle va consommer encore plus d'électricité parce qu'elle va avoir des nouveaux serveurs pour héberger encore plus de vidéoconférences.
Alors, il faudrait voir si elle consomme plus ou moins que le fameux Google dont on parlait tout à l'heure, qui suffit de ne pas utiliser pour ne pas le faire consommer, en fait. Hein.
Je sais pas ce que c'est Google, moi, donc je m'en fous.
Voilà. D'ailleurs, je viens de retrouver, en fait, cet onglet, qui a quand même comme titre assez allécheur. Hein. Confinement, été et travail. Visio sur nos serveurs dédiés Nextcloud.
Mm-hmm.
Donc apparemment, oui, cette dot de la visio sur les Nextcloud qu'ils hébergent.
Mais quel rapport avec le télétravail, parce que pour les assos, peut-être.
Eh bien, écoute, ouais, c'est une question
un peu
de
crise là. Tu vois, il y a un truc sanitaire un peu corona couillon.
Ah oui, il y a ça aussi.
Je pense que ça doit être un peu lié à ça.
Mais qui va amener les gens à prendre conscience d'une évolution dans leur comportement de l'utilisation de l'outil numérique. L'être humain lambda aura la liberté d'ouvrir dans son navigateur Internet, et on ne va parler que de ça pour l'instant, un environnement qu'on pourra appeler adapté au télétravail, dans lequel il pourra consulter et stocker tout un panel complet de documents de différents formats. Il pourra également chatter avec ses camarades qui seront en présence, hein, virtuelle présence bien entendu, parce qu'ils auront des petites icônes vertes à côté du fait qu'ils soient connectés, ou jaunes s'ils ne sont pas là devant leur clavier, ou rouges pour dire qu'ils ne sont pas qu'ils ne sont pas connectés. Ils pourront aussi, tout d'un coup comme ça, à déclencher un travail autour d'un document et à accompagner ce travail d'une téléconférence visuelle et auditive au cours de laquelle les êtres humains présents dans cet environnement virtuel au travers de leur navigateur Internet pourront collaborer efficacement dans la création d'un contenu numérique quelconque. Et le tout en caleçon, dans son salon. C'est-il pas merveilleux ? Ce genre de fonctionnalité est plutôt prévu pour des gens qui n'ont pas de travaux manuels, déjà. Parce que vas-y pour récolter les poubelles en télétravail.
Donc tous les ouvriers... Tous
ça
les...
se fera, hein, on fait bien la guerre en télétravail. On peut faire la récolte des poubelles en télétravail.
Alors...
Piloter ton camion poubelle, toi-même.
Moi je propose qu'à la place des caissières, on ait des écrans et des caissières en télétravail.
Bah, c'est ça le self-scanning, hein.
Mais non, parce
on n'a plus besoin de que faire.
Non, tu n'auras plus besoin de supermarché, tu commanderas sur Amazon.
Exactement.
Ah, t'as vu, il y en a un qui suit.
Merci.
Du coup, comment tu envoies quelle partie de ton corps à l'hôpital?
Ah, non, c'est l'hôpital qui... Attends, bah, bref.
Avec le télétravail, c'est l'hôpital qui viendra à toi.
Ah ouais.
Je sais pas.
Le petit robot en location pour l'opération que tu dois faire, qui sera fait par le médecin, qui sera lui aussi en télétravail.
Mais c'est pas toi qui délirais sur un espèce d'appareil que tu as dans ton salon, comme ça, que tu branches sur ton ordi pour une espèce de medikit qui va se mettre en contact avec une officine quelconque de santé publique ou je sais pas quoi, et qui va s'activer pour te lancer des diagnostics et des opérations à distance, si c'était nécessaire, sur ta petite personne, toujours en caleçon dans son salon.
Je plaide coupable.
Mmh.
T'avais bu combien de bières à ce moment-là?
On n'en avait pas bu tellement, du tout, je crois.
Nous étions au début du repas.
Ouais.
Je crois que j'ai oublié la fin du repas.
Moi, je trouve ça super.
Et en plus, ce qui est magique, c'est que maintenant, ces beaux programmes et, peuvent aussi changer ton fond. Donc, quand on te filme, on pourrait même croire que t'es dans un vrai bureau.
Ah ouais?
Ah, ton fond, pas ton fond.
Pas ton fion ou ton fond de pantalon.
Donc, tu seras en caleçon et on ne le saura jamais.
On ne le saura jamais. Et derrière toi, il y aura un super décor de bureau.
Alors que t'es dans
avec des faux gens qui passent comme ça, jusqu'à la photocopieuse.
Jusqu'à le téléphone qui sonne à intervalles irréguliers.
Ah ouais, random, obligé, sinon c'est trop régulier, c'est pas drôle. Ouais, mais c'est génial, quoi. Qu'est-ce que vous avez comme problème avec ce monde?
Bah, qu'il y a la mère Zaclis qui a mis des nouveaux services dans son ex-cloud, du
coup. Bah, c'est pour amener à tout ça.
Ah, en tout cas, je pourrais être sûr de pas louper la transition.
Oui, donc, en gros, la mère Zaclis a rajouté un petit élément sur leur serveur Nextcloud dans l'application Talk et qui permet à tout un chacun de pouvoir passer des belles conférences.
Ah, parce que de fait, dans le logiciel Nextcloud, qui est à l'origine un logiciel de partage de fichiers qui permet comme ça la synchronisation entre différents appareils et le serveur, et qui permet la collaboration à plusieurs personnes, il y a tout un panel d'applications que tu peux rajouter quand tu as le pouvoir d'administration sur le Nextcloud, évidemment, pour agrémenter l'outil de base, qui on va dire est un stockage de fichiers et un partage de fichiers, de mille et une fonctionnalités toutes plus sympathiques les unes que les autres.
Ça passe par un password store, par un équivalent de LibreOffice en ligne,
un gestionnaire de mail, un gestionnaire de contact, agenda,
un calendrier partagé,
chat, vidéoconférence,
notes partagées.
Oh, il y en a plein.
Oui, c'est ça. Si tu ouvres nextcloud.org, là, je ne sais plus quoi, tu regardes ce qu'il y a comme type de service qu'on peut rajouter là-dedans.
Il n'y avait pas un réseau social inclus dedans aussi, je crois. Il y avait une application de réseau social.
Ah, le libre.
Basé sur, sur le fait divers, enfin sur Mastodon, etc.
Ouais, ça ne m'étonnerait pas.
Du coup, si c'est basé sur les faits divers, il n'y aura jamais d'actualité fraîche.
Hein?
Les faits divers?
Oui.
C'est très frais, les faits divers.
Oui, en plus, il n'y a pas plus frais.
Il n'y a pas plus frais que les faits divers.
Et donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Nextcloud, il est justement répertorié quasi dans les premières lignes d'un site qui vient d'apparaître comme ça, qui est nomoregoogle.com ou quelque chose dans le genre, ou .org. Et qui reprend donc tout ce que Google vous propose comme service gratuit.
J'ai regardé ça sur Google.
Ah, moi, j'ai fait un WIS, c'est depuis 2018 que le domaine existe. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait récent.
Mais à intervalles réguliers, il y a des nouvelles générations de jeunes cerveaux qui arrivent sur le marché du bourrage de crâne.
J'ai aussi fait la réflexion en voyant ce site. Je suis désolé de te couper comme ça. Mais je me suis dit, c'est génial en fait, des plateformes comme No More Googles. C'est que ça aide peut-être Google à faire un choix stratégique sur c'est quoi la prochaine boîte qu'il faut racheter. Parce que du coup, il voit très bien que la tendance pour, remplacer... YouTube, c'est Vimeo ou Peertube. Et c'est là où tu vois la force du logiciel libre. Vas-y Google, rachète Peertube. C'est pas possible.
Ouais. Là, il y a une petite faiblesse dans le capitalisme qui voulait justement capitaliser tout ça dans une seule et même entité. Eh bien, c'est loupé. La décentralisation est passée par là.
Ouais, et la licence libre aussi est passée par là.
Ouais, ouais. Hein? Et donc maintenant, Google est obligé de faire du libre. Oh, les pauvres, non. Ils vont pas se tirer une balle dans le pied. Non, ils savent plus cliquer.
Ils contribuent quand même.
Ils font pas du libre, ils font de l'open source de toute façon.
Ouais, ouais. Justo. C'est vrai, cette petite nuance magistrale quand même à ne pas perdre des yeux.
Ouais, l'open source est compatible avec le...
No more Google. C'est un appel à mettre un morceau de musique.
Ouais, si
vous n'aurez pas remarqué.
Thank you. Radio Campus Super Cacabouza. Encore ?
Ah ben ouais, encore. Et nous, encore que oui, ben oui, voilà, donc c'était bien cela, donc cette petite prose bien sympathique. Donc pour les aficionados de salles de conférence sans glyphosate et sans perturbateurs endocriniens, il y a moyen d'aller faire un petit tour chez la mère Zaclis, Z-A-C-L-Y-S, si vous n'êtes point déjà dans cette coopérative de services numériques, mais genre chaton comme ça, je ne sais plus si la mère Zaclis est montée en chaton proprement dit. Mais voilà, mais surtout, de manière globale, de pouvoir mettre le pied tout doucement à l'étrier du libre, c'est d'aller trier, justement, d'aller trier vos déchets numériques. Il y a une contrib atelier demain que je trouvais assez intéressant à annoncer et à signaler. Donc, bon, tant pis pour les effets secondaires de rediffusion de choses dans le genre. Donc, demain, nous serons le 6 novembre.
Non, le 7.
7, merci. Ouais, voilà, que... demain, c'est vrai.
Il y a le 6, en fait.
C'est dingue.
Ça passe vite, hein.
C'est monstrueux, enfin, ça dépend. Et oui, donc tu as tout sous les yeux. Moi, j'ai pas d'ordi ici.
Tout à fait.
Je suis le seul illettré.
Donc, c'est le confinatelier.
Non, mais si on voit un peu un contribatelier d'abord, voilà, ce que c'est.
Si on commence par contribatelier.
C'est un confinatelier, est une petite joke.
À la base, c'est les contribateliers, mais tu sais sur quoi ça se base, les contribateliers, parce que je suis en train de regarder ça.
Ce sont des événements conviviaux pour pouvoir contribuer ensemble au logiciel libre et à la culture libre, notamment aux services proposés par Framasoft. Tout le monde est la bienvenue, membre ou non membre de Framasoft, qu'on s'y connaisse déjà ou que l'on veuille découvrir ensemble comment contribuer au libre.
Même sans rien y connaître. C'est ça qui est fantastique avec leur formule, c'est que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil et tout le monde il est bienvenu. Parce qu'on a autant besoin de traducteurs, traductrices par exemple, quand il y a juste la documentation, et c'est ce qui fait quelque part un peu la force. Une des forces du logiciel libre, c'est qu'on n'a pas s'encombrer de tant de trentaines de bouquins, de modes d'emploi, de tutos. La documentation par logiciel est suffisamment généralement bien faite, parce que on veut que ce soit dans l'esprit d'un partage, quoi. Et donc le contrib atelier de demain s'appelle un confinatelier, parce qu'on est encore en plein confinement. Ça, c'est fin.
Alors, si vous le cherchez sur mobilison.fr, il s'appelle Confinatelier de novembre 3. Et c'est C-O-N-F-I-N apostrophe atelier. Confin
oui.
Apostrophe atelier.
Je l'ai mis sur Mastodon, comme ça tu pourras le mettre.
Et du coup, il y a plein de choses à découvrir. Il y a parcourir le Frama Libre, donc à peu près toutes les galaxies des différents logiciels que Framasoft propose. Il n'y a pas de compétences requises, il y aura Mobilison.
Oui, vous en parliez effectivement.
De l'OpenStreetMap, de la monnaie libre, du flux, de la métacarte numérique éthique, de l'inventaire de différentes choses.
Tu peux, ici un petit détail, un petit explicatif sur l'atelier monnaie libre ?
Bien sûr, si je remonte.
Découverte de la monnaie libre, Dune, et c'est tout. Donc ça, ouais. C'est une introduction, quoi.
Et donc tout cela se passe sur un Big Blue Button précisément. Si mes souvenirs sont bons, j'avais participé au confinatelier numéro 2. On était en plein milieu de confinement, donc c'était fin mai, début juin, je pense. Et c'était fort agréable parce que vous verrez que les différents salons existent. Donc, c'est une question que je vais te poser, Thierry, parce que tu as mis en route justement un Big Blue Button, à titre personnel et privé. Mais ça permet donc d'avoir quelqu'un qui est dans les coulisses. Et je me demandais si on a fait ce genre de format avec un Jitsi, il fallait chaque fois ouvrir un nouveau salon Jitsi. Une instance Big Blue Button, tu peux créer des sous-groupes et des sous-salons assez facilement, où tu dois chaque fois faire entre guillemets une nouvelle instance de Big Blue Button.
Non, de mémoire, tu as la possibilité de faire, alors je sais plus comment ils l'appellent, si c'est équipe ou groupe ou un truc qui est en accès public, et dedans créer plusieurs salons, et du coup qui est visible quand tu vas sur la page du groupe / équipe.
Okay. Un peu comme dans notre super mumble.src.brussels, On a voilà, le plus accueil, et puis on a Radio Véronica, Radio Caroline.
Voilà.
Ok.
Et donc, oui, non, c'est vrai que dans Bébé, tu as la possibilité, mais ça, c'est valable que si tout est bien, tous les chants sont bien mis, enfin, tous les différents salons sont bien publics. Mmh. Du coup, ils sont bien répertoriés, visibles.
Mmh. Ok.
De mémoire.
Ouais, ouais, ouais. Et c'est ce que tu as fait, toi, dans ton instance de Big Blue Button?
Non, parce qu'elle est extrêmement privée, elle était liée à un Mattermost.
Ok. Ouais, Mattermost, d'autres plateformes de chafting, quand on est wallow.
Que nous employons, par exemple, chez Nusrinet, oui. Chez Ocaldarium.
Ah, oui. Qui n'emploie pas de Mattermost?
Ceux qui emploient RocketChat.
Ah oui, et ceux qui emploient Slack. On est sur un autre format.
Ouais, où on paie l'insulte.
Ouais. Ouais, ouais.
Je me sens offensé.
C'est vendredi.
En santé.
Tiens, si j'allais dire émettre.
Ben écoutez, j'étais en train de me dire que il se passait quand même depuis ces dernières années une espèce de prise de conscience au niveau européen sur le logiciel, dans un premier temps open source. Il y avait eu la campagne aussi Public Money, Public Code, qui était portée par la FSFE, je crois, ou un truc comme ça. Et là, je vois une annonce qui vient de la Commission européenne qui adopte sa nouvelle stratégie en termes de logiciel libre.
Libre ? Vraiment ?
Ben, le mot open source est encore souvent utilisé dans le texte, mais il y a la notion qui est même dans le document qu'on peut télécharger depuis le site de la Commission européenne, qui s'appelle « Communication à la Commission, stratégie en matière de logiciel libre 2020-2023 ». L'esprit ouvert. Il y a un petit sous-titre. Qui date du 21/10/2020. Il y a un petit encart quand même qui dit, un petit encart bleu, c'est un joli PDF avec plein de points, mais qui sont avec des points sympas. Hein. Il y a principes fondamentaux, l'esprit ouvert, transformer, partager, contribuer, sécuriser, garder la maîtrise. C'est quand même pas rien.
Et comment?
Et il y a un petit encart bleu qui dit logiciel libre et ouvert. Le logiciel libre ou logiciel à code source ouvert combine les droits d'auteur à une licence pour assurer aux utilisateurs la liberté d'exécuter le logiciel, de l'étudier, de le modifier et de partager le code et les modifications avec autrui. Il favorise la collaboration, l'innovation et l'agilité.
Noir sur blanc. Enfin, bleu, blanc sur bleu.
Je ne sais pas à quel point ce texte est contraignant ou, je veux dire, voilà, on va dire à une certaine force, mais... C'est quand même un texte qui porte des titres, je trouve, très, très, très encourageants concernant la prise de conscience à un niveau plus européen la force du logiciel à code source partagé. Hein, ils disent bien à code source partagé.
Mais comment tu es tombé sur ce PDF?
Parce que je continue à croire que on a beau critiquer tout ce qu'on veut dans la manière dont l'Europe fonctionne, je reste au fond de moi, malgré tout, on va dire, intrigué par et sa complexité et une certaine profondeur dans sa réflexion.
Mais si demain...
Je dis ça en parlant de l'Europe comme si c'était une créature. Je pense que c'est une créature, mais bon, en même temps...
Si demain on disait à lire sa PDF
Moi, je crois que j'ai cherché simplement Europe Free Open Source Software. Et en tout cas, sur base d'un DuckDuckGo non géolocalisé, donc anglophone, il y a un des premiers titres, c'est « The European Commission adopts its new open source software strategy ».
Okay.
Et la version française que je vous ai lue tantôt est téléchargeable, elle aussi.
Mais ça m'étonne pas trop que les administrations, enfin c'est chouette, ça m'étonne pas trop que les administrations voient un intérêt dans le logiciel libre, puisqu'il s'agit la plupart du temps de réduire les coûts liés au développement de logiciels qui sont de toute façon utilisés partout et qui sont réutilisés dans toutes les strates des administrations. Donc par exemple. Je ne sais pas, moi, un outil de gestion de personnel, dans une administration va être utile, par exemple au niveau national et dans nos ministères, dans tous les ministères. Parce que c'est tout le temps la même chose qui revient. Et donc ça ne m'étonne pas qu'ils voient un intérêt. Et c'est super chouette qu'ils s'en rendent enfin compte qu'il y a clairement un intérêt. Parce que c'est le cas, mais...
Mais au niveau des ministères de chez nous, il y en a un à Bruxelles qui s'appelait la COCOF, qui a fonctionné en logiciel libre pendant des années, et il y a 3-4 ans, qui est repassé en mode propriétaire, soi-disant parce qu'il y a des problèmes de format avec le fédéral. C'est l'argument qui était avancé par la COCOF. Pas suivi. Voilà, mais donc, il y a d'autres administrations.
Mais par exemple, en Wallonie, ils sont beaucoup dans... Enfin, on dérive un peu, mais en Wallonie, ils sont beaucoup... Enfin, ils sont à fond dans l'open data, etc., et dans tout ce qui est, ben voilà, les données, elles sont produites, enfin, elles viennent de vous déjà à la base, enfin, des citoyens. Elles sont produites par une administration, elles sont formalisées, normalisées, etc. Et donc, il est normal qu'elles retournent aux citoyens avec, enfin, cette.
Ah, c'est chez eux qu'on va les taper avec la campagne Free Money, Public Money, Public
L'initiative européenne. En termes de projets concernant le logiciel libre, selon un des graphes et une des explications qui est dans leur document, en 2000, la Commission a adopté sa première stratégie en faveur de l'utilisation interne des logiciels libres. Ça, c'est un des points, c'est le point 6.1. Et il y a un graphe assez parlant qui commence aux années 2000, puis 2003, puis 2007, puis 2014, puis 2020, qui se superpose de différents usages, on va dire, ou de différentes relations au logiciel libre. En 2000, c'était la simple utilisation en termes d'infrastructure. En 2003, utilisation d'outils. En 2007, production. En 2014, contribution. Et en 2020, transformation.
J'applaudirais bien des cinq mains si j'étais notarié.
C'est bizarre, hein?
Oui.
Voilà, moi je dirais que ça me fait un petit quelque chose. Je me dis que c'est pas si mal, en fait, d'être en Europe et d'avoir... quand même des gens qui militent depuis pas mal de temps à prendre conscience qu'il y a une autre manière de faire société dans le logiciel libre et que faire société à l'ère numérique dépend fortement du code source et que si on ne devient pas un peu plus autonome vis-à-vis du code source, on n'est pas vraiment dans une chouette société.
On le voit déjà aujourd'hui, par exemple quand des gouvernements peuvent rompre l'import ou l'export de certaines ressources à un autre gouvernement, des difficultés que ça peut engendrer pour certaines sociétés.
Tu penses à quoi là? Parce que c'est...
Huawei par exemple.
Ah oui, oui. Mais ouais, c'est un peu...
Ou ils ont l'interdiction d'un port de certains processeurs, tout simplement. Et du coup, leur manière de fonctionner a complètement changé.
Ouais, voilà, mais si Huawei faisait dans le libre, libre hardware, libre software, on les accepterait? Ou même pas? C'est juste parce qu'ils sont des méchants capitalistes, même avec le libre. Je ne dis pas qu'il faut être fauché pour ça.
Mais si j'en prends une autre architecture, qui est l'architecture PowerPC, par exemple, qui a été complètement open sourcée. Enfin, en tout cas, les processeurs, les schémas des processeurs sont accessibles. Il n'y a pas beaucoup d'architectures qui essayent de se reposer dessus aujourd'hui. La même chose avec RISC.
Ah, donc la force quand même de l'opacité ou... La force de l'ombre reste encore un des piliers du capitalisme.
Miaou.
Et c'est bientôt 14 heures. Bien, c'est pas un petit récapitulatif là, il nous reste quelques minutes avant de laisser la place à What is IP V4 et What is IP V6.
Elle était cherchée loin. Hein.
C'est pas, c'est vendredi, non?
C'est vrai.
Si on est vendredi, j'ai pas été chercher loin.
Votre mot de la fin?
Ben, mobilisons. Je suis content de savoir que ça, maintenant, ça a l'air d'être sur de bons rails. Donc, le Facebook bio, comme il le disait, ils ont lancé ça quoi, il y a un an et demi, deux ans?
Moi, je dirais deux ans. Mais...
Ouais, deux ans dans ces eaux-là. Vraiment, en mode. On était tous et toutes conviés à venir un peu chipoter chez eux pour voir à quoi ça ressemblait, comment ça n'allait pas bien, comment ça allait bien. Et à l'époque, il fallait surtout rien mettre de sérieux chez eux parce que ça allait de toute façon effacer à minuit une, tous les jours. Mais là, maintenant, il y a des instances qui ne les effacent plus. C'était sur Mobilisons.
Mobilisons.be déjà.
Il y a Mobilisons.be. Qui a été créé par Alive.
Pour rappel,
sur Mastodon, je pense.
L'orthographe, c'est mobilizon.be.
Mm-hmm. Wow. Ouais. Ok.
Et ouais, moi, du coup, moi, je m'étais inscrit sur l'instance française parce que à ce moment-là, il n'y avait pas encore d'instance belge. Ça va vite, hein, il faut suivre. Hein. Mais du coup, ouais, j'irai sur celle-là. Mais c'est ça qui est bien, c'est que du coup, tu choisis celle que tu veux. Et en termes. Enfin, on n'en a pas parlé, on a quelques minutes, mais. L'intérêt aussi d'avoir plusieurs instances, c'est la modération. C'est-à-dire que tu peux. C'est toi qui deviens maître de quels sont les événements qui restent sur ton instance. Et si tu n'as pas envie d'avoir des événements de fascistes, eh ben tu les dégages et c'est tout.
Ça permet aussi de fédérer l'effort de modération.
Oui, c'est ça. C'est un peu, enfin, exactement comme sur Mastodon. Je ne sais pas où ils en sont dans la modération, mais il me semble qu'ils avaient fait un gros effort parce qu'ils étaient attendus au tournant, Framasoft. Mmh. Donc, ouais.
Mmh. Donc, il n'y a pas d'algorithme qui s'occupe de faire le tri entre ce qui est fasciste
et
ce qui
des réseaux pas. Neuronaux biologiques.
Ouais, voilà, ouais, un disque pur et des neurones totalement sourcés, humains, avec du vrai ADN, s'il vous plaît bien.
Thiers, petit mot.
Je reprendrai bien une petite Stutterick.
Du coup, j'ai...
Mais je n'en ai plus dans le frigo.
Moi, j'ai déjà dit, qu'est-ce que tu veux? Je veux bien qu'on meuble, mais...
Moi, je vois depuis le studio qu'il y a déjà les successeurs de What Is It qui sont là.
Tels des requins. Prêts à mordre le micro.
Je veux dire des rouquins.
Voilà, du coup.
Et à balancer du bon son sur les ondes radio.
Clôturons ici.
Ce qui est cool, c'est qu'il ne nous attend pas.
On se retrouve dans 15 jours.
Bah, en tout cas, premier et troisième vendredi, on va essayer de garder cette fréquence-là.
En tout cas, je suis content d'être venu physiquement au studio, c'est quand même trop cool.
Au studio virtuel, tu veux dire?
Non, je suis là, vraiment là.
Ah merde. Bon, ben.
Que la farce du libre soit avec vous.
Je peux expliquer les logiciels libres en trois mots. Liberté, égalité, fraternité.
Liberté.
Les logiciels respectent la liberté de leurs utilisateurs.
Égalité.
Personne n'a du pouvoir sur personne.
Fraternité.
Nous encourageons la coopération entre les utilisateurs. Avec un programme où les utilisateurs ont le contrôle du programme, où le programme a le contrôle des utilisateurs.